Topo 11, Jésus rencontre ses premiers disciples. Nous voici arrivés au terme de l'aventure. Depuis 3 ans, Jésus sillonne les routes de Galilée et de Judée, annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dans quelques jours, il sera arrêté, condamné, crucifié, puis déposé dans un tombeau. Cette belle aventure touche à sa fin et elle semble se terminer en échec. Alors je vous propose aujourd'hui et demain de remonter au tout début de l'aventure, en ces premiers jours, où Jésus rencontre et appelle ceux qui deviendront les 12. Ce matin, nous contemplons cette rencontre dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Le lendemain encore, Jean se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce que veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire « Pierre ». Nous avons en Jean-Baptiste le modèle de l'accompagnateur spirituel. Il accueille ceux qui viennent à lui, non pas pour les garder pour lui, mais pour les conduire au Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est bien souvent représenté en statue comme en peinture avec l'index tendu. Il indique. Ce jour-là, Jésus passe devant Jean-Baptiste qui, nous raconte Saint Jean, indique Jésus à qui veut bien l'entendre. Deux de ses disciples comprirent ce jour-là que c'est lui désormais qu'il leur faudrait suivre. Jean-Baptiste est bien décidément un géant de l'humilité. Un peu plus tard, dans ce même évangile de Jean, il aura cette merveilleuse parole « Il faut qu'il croisse » en parlant de Jésus « et que moi je diminue » Jean 3, 30. En ce sens, Jean-Baptiste pourrait être le patron des prêtres, le modèle du sacerdoce. De fait, la grande tentation du prêtre est de vouloir garder pour lui. Telle est la source de bien des abus dénoncés par le pape François, à commencer par les abus de conscience. C'est facile à dire, mais parfois difficile à repérer. C'est que bien souvent, en particulier dans les sacrements, nous rencontrons le Christ à travers le prêtre. Mais le prêtre n'est pas le Christ. Il est celui qui nous donne au Christ et nous donne le Christ et qui ensuite s'efface. Ce temps de confinement où nous ne sommes plus en contact physique les uns avec les autres nous offre une belle occasion de faire un petit examen de conscience en la matière, vous comme moi. Vous, est-ce que je suis chrétien parce que j'aime le Christ ou parce que j'aime mon curé ou mon vicaire? Moi, est-ce que ce qui me rend heureux, c'est que les fidèles qui me sont confiés rencontrent le Christ ou qu'ils aiment ma prédication? Jean-Baptiste, lui, n'a pas de tels états d'âme. Il est tout tourné vers le Christ. Jean-Baptiste, lui, n'a pas de tels états d'âme. Il est tout tourné vers le Christ, se réjouissant de tenir le second rôle. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux, dit-il. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie et elle est parfaite. Jean 3, 29. Jean-Baptiste nous rappelle qu'il n'y a rien pour le médiateur. Belle leçon d'humilité pour moi, mais aussi pour chacun de vous, puisque d'une manière ou d'une autre, vous exercez vous aussi cette mission d'enfanter les autres à la fois, à commencer par vos enfants. Ce soir, Jean-Baptiste indique Jésus à ses deux disciples pour les inviter à suivre celui-ci, en accompagnant son geste de l'index de ces mots « Voici l'agneau de Dieu ». S'il avait dit « Voici le Messie », on aurait pu être sûr que les disciples se seraient immédiatement mis en route pour suivre Jésus, tant l'attente du Messie était forte à l'époque en Israël. Eh bien non. Jean-Baptiste indique Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Je gage que ces paroles restèrent mystérieuses pour ses deux premiers disciples. Elles prendront toutes leurs dimensions plus tard, lorsque, comme nous allons le commémorer dans quelques heures, les apôtres verront de loin le Christ sur la croix, contemplant alors l'agneau de Dieu qui donne sa vie en sacrifice pour sauver l'humanité de ses péchés. Ils n'ont peut-être pas bien compris les deux disciples, mais ils se sont mis à suivre Jésus, faisant confiance à l'indication de Jean-Baptiste. Suivre Jésus. Telle est probablement l'expression la plus utilisée dans la spiritualité chrétienne. Et je pense par exemple à ce livre qui, après la Bible, a été le plus imprimé, L'imitation de Jésus-Christ. Le disciple, c'est de fait celui qui imite Jésus-Christ, celui qui suit Jésus-Christ. Suivre a quelque chose de facile. Celui qui suit n'a pas à choisir le chemin, il se contente de mettre ses pas dans les pas de celui qui le précède. Celui qui suit n'a pas à affronter la résistance de l'air, il profite de l'effort fourni par celui qui est devant lui. Les adeptes du Tour de France sauront de quoi je veux parler. Et c'est de fait ce que Jésus attend de nous, que nous soyons des suiveurs et pas des aventuriers, traçant leur chemin au petit bonheur la chance. Ainsi, lorsque Pierre, après avoir confessé l'identité de Jésus-Christ, cherchera à passer devant, en prenant le leadership et en garantissant à Jésus qu'il fera tout pour l'empêcher d'être arrêté et mis à mort, Jésus lui répond « Passe derrière moi, Satan ». Autrement dit, ne te laisse pas fasciner, Pierre, par les promesses de Satan, mais repasse derrière moi, reprends ta place de disciple et suis-moi. Nous sommes les disciples. Jésus est le chemin, il a tracé la route. Nous n'avons plus qu'à mettre nos pas dans les siens. Est-ce qu'à chaque carrefour de ma vie, à chaque fois que j'ai une décision importante à prendre, je m'interroge ainsi? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Que cherchez-vous? Telles sont les premières, toutes premières paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Que cherchez-vous? Une question qui va immédiatement à l'essentiel. Toi qui lis l'évangile, toi qui depuis 3 semaines médites chaque jour la parole de Dieu, que cherches-tu? Peut-être vous souvenez-vous des JMJ de Paris en 97. Le thème de ces journées mondiales était celui de la rencontre de Jésus avec ses disciples dans l'évangile de Jean. Je garde un souvenir marquant de ces grandes affiches à fond bleu placardées dans le métro parisien avec écrit, en jaune au centre, cette phrase « Que cherchez-vous ?» Oui, finalement, telle est bien l'unique question qui vaille la peine d'être portée dans nos cœurs tout au long de notre vie. Et je gage qu'aucun d'entre nous n'est capable à l'instant même de donner à cette question une réponse définitive. Et tant mieux. Le chercheur de Dieu n'est-il pas celui qui n'a jamais fini de chercher ? Jésus se retourne, nous dit l'évangéliste, il sent qu'il est suivi. En se retournant, il reconnaît la présence des disciples et interroge, et nous interroge sur nos motivations profondes. Que cherchez-vous? Les disciples, comme nous, ne sont pas capables de répondre à cette question. Alors, ils bottent en touche, en répondant à la question par une autre question. Où demeures-tu? Sans le savoir, ils posent là la question essentielle qui fera le fil conducteur de tout l'évangile de Jean. Cette question de la demeure, déjà effleurée dans le prologue. Et le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, Jean 1, 14, et longuement repris dans le chapitre 15, comme par exemple en 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Jésus, à cette question innocente des deux disciples, aurait pu répondre dans ton cœur. C'est là que je veux demeurer, dans ton cœur. Mais les disciples ne pouvaient pas, à cette heure-là, entendre une telle réponse. Mais nous le pouvons. Alors n'hésitons pas, lors de notre temps d'oraison, à lui poser la question « Où demeures-tu ?» et acceptons d'entendre sa réponse. Quant aux disciples, puisqu'ils ne sont pas, à cette heure-là, capables d'entendre cette réponse, Jésus les invite à prendre la route avec lui. Venez et voyez. C'est ce que nous faisons depuis 3 semaines, jour après jour. Nous suivons Jésus au gré de ses rencontres pour voir et croire. Nous reviendrons sur ce thème avec Thomas dans quelques jours. Parmi ces deux disciples, il y a André. L'autre, nous ne connaissons pas son nom. Ce n'est pas Pierre, ni Philippe, ni Nathanaël, puisque ceux-ci arriveront après. Quel est donc ce tout premier disciple compagnon d'André? On ne saura jamais. Et si c'était vous et moi? André est souvent mis dans l'ombre de Pierre et dans l'évangile de Jean le premier à reconnaître Jésus comme le Christ. Le Messie, mot hébreu, se traduit par Christ en grec. André est aussi le premier missionnaire ou évangélisateur. Il conduit à Jésus son frère Pierre et Céphas. Ce n'est pas lui qui convertit, c'est le Christ qui convertit. La mission de l'évangélisateur n'est pas de convertir, mais de conduire au Christ et de s'effacer. Le reste ne lui appartient pas. Et de conversion, il est bien question pour Pierre. Il change de vie, il change d'identité, il change de nom. Tu es Simon, désormais tu t'appelleras Pierre. Pour marquer ce changement radical de vie que provoque la rencontre avec Jésus, il est proposé aux catéchumènes adultes de choisir un nouveau prénom lors de leur baptême. Peut-être vous souvenez-vous du baptême de la famille Nguyen lors de la vigile pascale l'année dernière. Les parents avaient choisi deux nouveaux prénoms, Claire et François. Pendant notre temps d'oraison, ce soir, frères et sœurs, portons d'une manière toute particulière les 16 catéchumènes adultes et lycéens que nous ne baptiserons pas à Pâques cette semaine, du fait du confinement, et qui vivent d'une manière particulièrement difficile cette semaine sainte. Bon temps d'oraison à chacune et à chacun.